Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous nous retrouvons pour le 75e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Philippe.
Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas ?
Eh bien, on va commencer par un four connecté comme innovation de la semaine. On recevra ensuite David Benbassa, qui est directeur général du site d'annonce Bien Ici. On va continuer avec notre consultant logement Bernard Cadeau et nous allons faire un petit focus sur l'immobilier neuf sur Villeurbanne.
Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Anne Mazoyer, fondatrice du cabinet Fair Value Corporate, pour parler investissement dans le monde de l'entreprise.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
Et Thomas, cette semaine, vous allez nous présenter la version connectée du Dual Cool Flex, Cookflex, de Samsung.
Oui, nous savons tous que vous êtes un fin gourmet, mon cher Philippe.
Oui.
Et vous en avez assez d'attendre continuellement la cuisson d'un plat au four pour en mettre un autre, j'imagine.
Absolument.
Bon, alors vous voulez faire cuire votre gâteau ou deux gâteaux dans votre four et vous voulez pouvoir les enlever comme vous l'entendez. Alors, surprise, votre deuxième gâteau n'a pas gonflé. Que faire ? Ben avec le fameux Dual Cookflex de Samsung, tout devient possible et vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas réussir vos petits plats. J'espère quand vous m'inviterez à déjeuner, d'ailleurs.
Ah ben avec plaisir, ah, parfait voilà. Pour moi, en effet, Thomas. Mais quelles sont les particularités de ce four ?
Eh bien, sa technologie Twin Convection, qui vous permet de cuire simultanément deux plats, des températures et des temps de cuisson différents. Le four est aussi doté d'une double porte. Sa poignée principale vous offre la possibilité de n'ouvrir que la partie supérieure du four et ainsi conserver une cuisson optimale du plat de la partie inférieure sans perte de chaleur. Ainsi, vous gagnez du temps, de l'énergie, mais aussi de la performance grâce à sa connexion Wi-Fi afin de contrôler votre four à distance avec l'application dédiée. Sur votre smartphone, bien évidemment. Le Cooking Guide recommande de façon pertinente le mode de cuisson optimal pour votre plat. Vous pouvez également sauvegarder votre façon de cuire et vos recettes.
Ça me met déjà l'eau à la bouche. Cuisiner depuis mon canapé, donc c'est parfait pour moi. Et quel est le prix de ce petit bijou technologique, Thomas ?
Eh bien, le modèle connecté du Dual Cookflex est observé en général au prix de 899 €.
Sud Radio, Osez Investir.
Notre invité cette semaine est David Benbassa, directeur général du site d'annonce Bien Ici.
Oui, Philippe, Bien Ici est un site d'annonce immobilière imaginé en 2015 par les professionnels de l'immobilier et regroupant le neuf et l'existant, la vente comme la location. La plateforme propose une technologie inédite de cartographie 3D qui permet la localisation immédiate des biens et l'accès à des informations précieuses sur son environnement. Bonjour, David Benbassa.
Bonjour, messieurs.
David Benbassa, avec votre site, vous avez un bon observatoire du marché de la transaction immobilière. On imagine que toutes les annonces vous permettent de prendre la température. Comment jugez-vous la situation actuelle ?
On est dans une suite de crises sanitaires, d'une période 2020 assez particulière, ouais, faite de stop and go, ouais, où malgré tout, finalement, le marché s'est plutôt bien porté. Malgré tout, quand on regarde, ouais, le nombre de transactions annuelles, on est, je crois, sur la deuxième année la plus performante des 15 dernières années. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, le stop and go nous a donné quand même beaucoup d'élan parce qu'on a vu que les recherches immobilières étaient toujours présente tout au long de l'année, même si au mois de mars et avril, il y a eu une baisse des consultations, c'est reparti excessivement vite à partir du mois de juin, avec un nombre de contacts ahurissant. Donc on a vécu ça de manière en observation, mais avec beaucoup de satisfaction. La saisonnalité a baissé sur le mois de novembre-décembre, mais de manière assez classique, et le mois de janvier, donc ce mois de janvier et le mois de février dans lequel nous sommes, bah, est reparti sur une tendance assez haussière.
Toujours autant sur la location que sur la transaction traditionnelle ?
Beaucoup, absolument. Alors, on, ouais, est dans des effets de saisonnalité sur la location, donc un petit peu, ouais, moins, mais la transaction est absolument bien partie. Donc, ça ne veut pas dire que derrière, il y a de l'achat immédiat. En tout cas, l'intention, la volonté, l'envie est là et bien présente.
Une question simple, David Benbassa, vaut-il mieux vendre son bien en direct ou par agence ?
C'est à moi que vous posez la question.
Forcément, oui. Vous êtes notre invité, c'est dimanche matin.
Et il y a écrit « Parlons vrai hein. ».
Parlons vrai. Moi, mon conseil serait, est-ce que je le ferais bien évidemment de mon côté, c'est si on veut vendre rapidement et en toute confiance, il faut passer par un professionnel.
Et pourquoi ?
Pour des raisons assez simples. Déjà parce qu'on voit toute la complexité de vendre son bien. Moi, j'aurais la crainte de me faire avoir, de peut-être faire une mauvaise affaire, mais dans les deux, ouais, sens. Hein, vendre pas assez cher, vendre trop cher, quoi qu'il en soit, se faire rattraper un petit peu par l'acquéreur. Si je suis propriétaire, je souhaiterais que quelqu'un de confiance puisse gérer à ma place cette transaction. Donc, c'est un métier de vendre de l'immobilier, c'est un métier de rencontrer les futurs acheteurs, c'est un métier de présenter le mandat de la meilleure façon possible.
Alors justement, vous parlez de conseils, comment faut-il faire pour vendre un bien ? Quels sont les bons supports à utiliser ? Quelle est la bonne stratégie ?
Alors, après avoir sélectionné son professionnel, forcément quelqu'un du quartier, l'expert du quartier va connaître l'ensemble des transactions qui a eu lieu ces dernières années, va connaître l'environnement proche, va connaître finalement l'avenir du quartier. Donc, le choix du professionnel est important. La deuxième chose, après, c'est d'avoir quelqu'un qui ait toute la sensibilité pour mettre en avant votre bien. Ça veut dire, c'est de la prise de photos. Ça veut dire, c'est faire appel peut-être à de la visite virtuelle. Ça veut dire se positionner sur les bons portails immobiliers. J'en suis un, donc forcément, il faudra passer par Bien Ici. Ça me paraît essentiel, puisque on va pouvoir, et l'agent immobilier va pouvoir identifier et montrer dans quel quartier se trouve le bien à vendre. Le choix du portail va dépendre de la zone géographique, va dépendre du type de bien. Peut-être aller, si vous avez un bien luxe, c'est-à-dire avec un montant de transaction important, peut-être aller sur des sites spécialisés. En tout cas, la stratégie qui sera adoptée par le professionnel sera en fonction effectivement du lieu, de l'environnement et du type de bien proposé.
Alors c'est les questions qu'on se pose souvent quand on essaie de vendre un bien. Faut-il mettre beaucoup de photos? Lesquelles? Est-ce qu'il faut avoir recours à un professionnel? Vous parliez également de 3D, de visite virtuelle. Bon, tout ça, comment on fait? Comment on s'y prend très concrètement?
Nous, on a une conviction, c'est que plus on donne d'informations aux recherchants immobiliers, plus on arrive à le conforter dans son choix et dans sa sélection, je dirais, mieux c'est. Ça veut dire que vous arrivez et l'acquéreur arrivera près du propriétaire de manière plus convaincue en connaissant, en ayant l'ensemble des informations.
Mais vous êtes sûr de vous, parce que, pardon, ça suscite un intérêt de mettre des photos, mais en mettre trop, c'est pas déjà donner les réponses et empêcher une visite?
Non, je ne le pense pas.
D'accord.
On se pose toujours la question, combien de photos il faut? Il n'y a pas un bon nombre de photos. Ce qui est important, c'est de montrer...
La qualité aussi.
Alors, il y a la qualité, effectivement. Faire appel à un professionnel me paraît plus intéressant. L'angle de la photo, donc le fait que la pièce soit un peu rangée, donne envie. Ça, c'est important. Le nombre, en fait, il va falloir qu'il y ait une photo par type de pièce. Il faut montrer la destination des pièces. Ne pas montrer une pièce pourrait semer le doute. Donc, il faut montrer l'ensemble des pièces. Il faut effectivement montrer les atouts. Peut-être une vue d'extérieur, ça c'est important. Et en même temps, moi, je donne souvent ce conseil de faire attention à la saisonnalité. Montrer une photo du bien d'extérieur en hiver alors que nous sommes en plein été ou l'inverse n'a pas de sens. Ça veut dire que le bien est daté, c'est pas un bon message. Donc quant au nombre, écoutez, nous ce qu'on peut faire c'est que statistiquement dire que effectivement la différence entre 5 photos et 3 photos, c'est-à-dire que le nombre de photos impacte un petit peu sur la visibilité et l'envie.
Et la visite virtuelle.
La visite virtuelle va dans le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça veut dire il faut un peu plus de transparence et montrer un maximum de choses. Ce n'est pas parce que vous montrez une visite virtuelle, vous faites gagner du temps au recherchant immobilier, clairement, hein, puisqu'il peut faire la visite. La visite virtuelle ne fait pas vendre. Hein. Par contre, elle permet de faire gagner du temps et de finalement faire en sorte que l'acquéreur puisse identifier et poser les bonnes questions, donc faire gagner du temps à l'acquéreur, mais aussi à l'agent immobilier, lors de la visite.
Vous êtes un portail, vous l'avez dit, je l'ai évoqué dans votre présentation. Est-ce qu'il vaut mieux être sur un seul portail, sur plusieurs? C'est quoi la bonne stratégie aussi dans ce domaine-là?
Vous savez, si vous êtes propriétaire et que vous donnez un mandat exclusif, c'est-à-dire le mandat à une seule et même agence, et que ce bien-là est bien positionné, en termes de prix, est au bon endroit, ça ne sert à rien de courir les portails. Le bien est exclusif, l'agent en a la possession, la recherche qui est faite par les acquéreurs se fait effectivement sur plusieurs portails. Quant à vous, ça ne sert à rien de courir les portails si vous avez le bon produit. Agent immobilier devrait se contenter sur un portail.
Merci David Benbassa et je rappelle que vous êtes le directeur général du site d'annonce Bien Ici.
Merci à vous.
Sud Radio Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant d'Osez Investir en logement. Alors Bernard, de quoi allez-vous nous parler? De loyers capitalisés, c'est bien ça? Et à Paris en plus?
Oui, Thomas. Alors la première idée qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est qu'il faut d'abord percevoir une somme, quelle qu'elle soit, notamment des loyers par exemple, avant d'espérer les capitaliser. C'est comme ça que ça marche.
Ça n'a rien d'étonnant en soi.
Ben non, jusque-là tout va bien. C'est le principe d'ailleurs adopté par la mairie de Paris, mais voyons comment. Alors rappelons tout d'abord que la loi exige un pourcentage de logements sociaux par ville, 25%, chaque commune cherchant bien sûr à atteindre cet objectif ou à s'en approcher. Et la ville de Paris n'y échappe pas, et elle fait d'ailleurs de gros efforts en la matière. Mais elle adopte une démarche un peu particulière. Elle rachète des logements en utilisant son droit de préemption, c'est-à-dire qu'elle achète en priorité, bien évidemment, puis elle les convertit en logements sociaux et se tourne alors vers les bailleurs sociaux qui les exploiteront durant les 50 prochaines années.
Là toujours, rien de surprenant.
Non, mais là où c'est original, là, j'y viens, là, ça y est, c'est que le bailleur social doit verser en une seule fois l'intégralité des loyers des 50 années. Imaginez un bailleur privé qui demanderait à son locataire de lui verser d'un seul coup les 3 ans de loyer avant l'entrée dans les lieux. Je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais ça m'étonnerait. Alors vous avez compris, c'est tout sauf banal. Ça résulte d'ailleurs d'un accord dérogatoire qui avait été accordé à la ville de Paris en 2015. Et la Chambre régionale des comptes a d'ailleurs évoqué une manœuvre comptable.
Alors que faut-il en penser, Bernard ?
C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein.
Moi, je vous propose de prendre le verre plus petit. Non,
ça non, non, ça ne marche pas comme ça. Et puis moi, je le vois toujours à moitié plein, le verre. C'est comme ça. Voilà, je suis fait comme ça. Ouais. Depuis 2016, ce système a certes permis d'acquérir et de transformer 20 000 logements et on peut s'en réjouir. Mais ces 20 000 logements qui vont manquer au marché de gré à gré renforcent la pénurie et contribuent ainsi à une forme de pression sur les prix de vente. Et puis enfin, les 1,2 milliard d'euros qui ont été avancés par les bailleurs sociaux, vous savez, les 50 ans de loyer, là, ils pèsent sur leur capacité d'investissement pour agrandir leur parc et loger plus de monde. Alors en conclusion, c'est un jeu à somme nulle ou c'est une bombe à retardement? Eh bien, je vous les juge en ce dimanche matin.
On va apprécier votre remarque. Merci Bernard.
ImoStim, commercialisateur en immobilier neuf, présente
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Thomas, nous sommes en duplex avec Pierre Bonnet, président du groupe SLCI, promoteur en logement collectif, aménageur, constructeur de maisons individuelles et administrateur de biens dans la région Rhône-Alpes. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville de Villeurbanne.
Bonjour Pierre Bonnet. Comment se porte le marché du neuf sur Villeurbanne et quelle est sa tendance actuelle ?
Alors, le marché de Villeurbanne est très dynamique, comme toute l'agglomération lyonnaise. Par contre, il est caractérisé par une forte pénurie, puisque le nombre de ventes dépasse largement le réapprovisionnement de l'offre par les différents opérateurs sur l'agglomération. Plusieurs raisons à cela, la longueur d'obtention des permis de construire et puis la période 2020 avec les différents confinements qui ont freiné l'obtention des permis de construire.
Pierre Bonnet, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement sur Villeurbanne, vers quel type de bien devrais-je m'orienter ?
Les investisseurs qui viennent nous voir se positionnent plutôt sur des 2 et 3 pièces qui se louent très bien puisque la population qui habite les villes est en général jeune et les foyers sont peu nombreux. Par contre, un investisseur qui dispose d'un budget un peu supérieur peut s'orienter vers des logements de 4 pièces puisque les locataires resteront plus longtemps.
Merci Pierre Bonnet.
Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Osez Investir et Anne Mazoyer, fondatrice du cabinet Fair Value, pour nous éclairer sur la meilleure façon d'investir dans une entreprise.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens. Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous nous retrouvons pour le 75e numéro d'Osez Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Philippe.
Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas ?
Eh bien, on va commencer par un four connecté comme innovation de la semaine. On recevra ensuite David Benbassa, qui est directeur général du site d'annonce Bien Ici. On va continuer avec notre consultant logement Bernard Cadeau et nous allons faire un petit focus sur l'immobilier neuf sur Villeurbanne.
Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Anne Mazoyer, fondatrice du cabinet Fair Value Corporate, pour parler investissement dans le monde de l'entreprise.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
Et Thomas, cette semaine, vous allez nous présenter la version connectée du Dual Cookflex de Samsung.
Oui, nous savons tous que vous êtes un fin gourmet, mon cher Philippe.
Oui.
Et vous en avez assez d'attendre continuellement la cuisson d'un plat au four pour en mettre un autre, j'imagine.
Absolument.
Bon, alors vous voulez faire cuire votre gâteau ou 2 gâteaux dans votre four et vous voulez pouvoir les enlever comme vous l'entendez. Alors, surprise, votre 2e gâteau n'a pas gonflé. Que faire ? Avec le fameux Dual Cookflex de Samsung, tout devient possible et vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas réussir vos petits plats. J'espère quand vous m'inviterez à déjeuner d'ailleurs.
Avec plaisir, parfait pour moi en effet Thomas, mais quelles sont les particularités de ce four ?
Sa technologie Twin Convection, qui vous permet de cuire simultanément 2 plats à des températures et des temps de cuisson différents. Le four est aussi doté d'une double porte, sa poignée principale vous offre la possibilité de n'ouvrir que la partie supérieure du four et ainsi conserver une cuisson optimale du plat de la partie inférieure sans perte de chaleur. Ainsi, vous gagnez du temps, de l'énergie, mais aussi de la performance grâce à sa connexion Wi-Fi afin de contrôler votre four à distance avec l'application dédiée. Sur votre smartphone, bien évidemment. Le Cooking Guide recommande de façon pertinente le mode de cuisson optimal pour votre plat. Vous pouvez également sauvegarder votre façon de cuire et vos recettes.
Ça me met déjà l'eau à la bouche. Cuisiner depuis mon canapé, donc c'est parfait pour moi. Et quel est le prix de ce petit bijou technologique, Thomas ?
Eh bien, le modèle connecté du Dual Cook Flex est observé en général au prix de 899 €.
Sud Radio, osez investir.
Notre invité cette semaine est David Benbassa, directeur général du site d'annonce Bien Ici.
Oui, Philippe, Bien Ici est un site d'annonce immobilière imaginé en 2015 par les professionnels de l'immobilier et regroupant le neuf et l'existant, la vente comme la location. La plateforme propose une technologie inédite de cartographie 3D qui permet la localisation immédiate des biens et l'accès à des informations précieuses sur son environnement. Bonjour, David Benbassa.
Bonjour, messieurs.
David Benbassa, avec votre site, vous avez un bon observatoire du marché de la transaction immobilière. On imagine que toutes les annonces vous permettent de prendre la température. Comment jugez-vous la situation actuelle ?
On est dans une suite de crises sanitaires, d'une période 2020 assez particulière, ouais, faite de stop and go, ouais, où malgré tout, finalement, le marché s'est plutôt bien porté. Malgré tout, quand on regarde, ouais, le nombre de transactions annuelles, on est, je crois, sur la deuxième année la plus performante des 15 dernières années. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, le stop and go nous a donné quand même beaucoup d'élan parce qu'on a vu que les recherches immobilières étaient toujours présente tout au long de l'année, même si au mois de mars et avril, il y a eu une baisse des consultations, c'est reparti excessivement vite à partir du mois de juin, avec un nombre de contacts ahurissant. Donc on a vécu ça de manière en observation, mais avec beaucoup de satisfaction. La saisonnalité a baissé sur le mois de novembre-décembre, mais de manière assez classique, et le mois de janvier, donc ce mois de janvier et le mois de février dans lequel nous sommes, bah, est reparti sur une tendance assez haussière.
Toujours autant sur la location que sur la transaction traditionnelle ?
Beaucoup, absolument. Alors, on, ouais, est dans des effets de saisonnalité sur la location, donc un petit peu, ouais, moins, mais la transaction est absolument bien partie. Donc, ça ne veut pas dire que derrière, il y a de l'achat immédiat. En tout cas, l'intention, la volonté, l'envie est là et bien présente.
Une question simple, David Benbassa, vaut-il mieux vendre son bien en direct ou par agence ?
C'est à moi que vous posez la question.
Forcément, oui. Vous êtes notre invité, c'est dimanche matin.
Et il y a écrit « Parlons vrai hein ».
Parlons vrai. Moi, mon conseil serait, et ce que je le ferais bien évidemment de mon côté, c'est si on veut vendre rapidement et en toute confiance, il faut passer par un professionnel.
Et pourquoi ?
Pour des raisons assez simples. Déjà parce qu'on voit toute la complexité de vendre son bien. Moi, j'aurais la crainte de me faire avoir, de peut-être faire une mauvaise affaire, mais dans les deux, ouais, sens. Hein, vendre pas assez cher, vendre trop cher, quoi qu'il en soit, se faire rattraper un petit peu par l'acquéreur. Si je suis propriétaire, je souhaiterais que quelqu'un de confiance puisse gérer à ma place cette transaction. Donc, c'est un métier de vendre de l'immobilier, c'est un métier de rencontrer les futurs acheteurs, c'est un métier de présenter le mandat de la meilleure façon possible.
Alors justement, vous parlez de conseils, comment faut-il faire pour vendre un bien ? Quels sont les bons supports à utiliser ? Quelle est la bonne stratégie ?
Alors, après avoir sélectionné son professionnel, forcément quelqu'un, mmh, du quartier, mmh, l'expert du quartier va connaître l'ensemble des transactions qui a eu lieu ces dernières années, va connaître l'environnement proche, va connaître finalement l'avenir du quartier. Donc, mmh, le choix du professionnel est important. La deuxième chose après, c'est d'avoir quelqu'un qui ait toute la sensibilité pour mettre en avant votre bien. Ça veut dire c'est de la prise de photos, ça veut dire c'est faire appel peut-être à de la visite virtuelle, ça veut dire se positionner sur les bons portails immobiliers. J'en suis un, donc forcément il faudra passer par Bien Ici, ça me paraît essentiel puisque on va pouvoir, et l'agent immobilier va pouvoir identifier et montrer dans quel quartier se trouve le bien à vendre. Le choix du portail va dépendre de la zone géographique, va dépendre du type de bien. Peut-être aller, si vous avez un bien luxe, c'est-à-dire avec un montant de transaction important, peut-être aller sur des sites spécialisés. En tout cas, la stratégie qui sera adoptée par le professionnel sera en fonction effectivement du lieu, de l'environnement et du type de bien proposé.
Alors c'est une question qu'on se pose souvent quand on essaie de vendre un bien. Faut-il mettre beaucoup de photos ? Lesquelles ? Est-ce qu'il faut avoir recours à un professionnel ? Vous parliez également de 3D, de visite virtuelle. Bon, tout ça, comment on fait ? Comment on s'y prend très concrètement ?
Nous, on a une conviction, c'est que plus on donne d'informations aux recherchants immobiliers, plus on arrive à le conforter dans son choix et dans sa sélection, je dirais, mieux c'est. Ça veut dire que vous arrivez et l'acquéreur arrivera près du propriétaire de manière plus convaincue en connaissant, en ayant l'ensemble des informations.
Mais vous êtes sûr de vous, parce que, pardon, ça suscite un intérêt de mettre des photos, mais en mettre trop, c'est pas déjà donner les réponses et empêcher une visite ?
Non, je ne le pense pas. D'accord. On se pose toujours la question, combien de photos il faut ? Il n'y a pas un bon nombre de photos. Ce qui est important, c'est de montrer
la qualité aussi.
Alors, il y a la qualité, effectivement, faire appel à un professionnel me paraît plus intéressant. L'angle de la photo, donc le fait que la pièce soit un peu rangée, donne envie, ça c'est important. Le nombre, en fait, il va falloir qu'il y ait une photo par type de pièce. Il faut montrer la destination des pièces. Ne pas montrer une pièce pourrait semer le doute. Donc, il faut montrer l'ensemble des pièces. Il faut effectivement montrer les atouts. Peut-être une vue d'extérieur, ça c'est important. Et en même temps, moi je donne souvent ce conseil de faire attention à la saisonnalité. Montrer une photo du bien d'extérieur en hiver alors que nous sommes en plein été ou l'inverse n'a pas de sens. Ça veut dire que le bien est daté, c'est pas un bon message. Donc quant au nombre, écoutez, nous ce qu'on peut faire c'est que statistiquement dire que effectivement la différence entre 5 photos et 3 photos, c'est-à-dire que le nombre de photos impacte un petit peu sur la visibilité et l'envie.
Et la visite virtuelle.
La visite virtuelle va dans le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça veut dire il faut un peu plus de transparence et montrer un maximum de choses. Ce n'est pas parce que vous montrez une visite virtuelle vous faites gagner du temps au recherchant immobilier, clairement, hein, puisqu'il peut faire la visite. La visite virtuelle ne fait pas vendre. Hein. Par contre, elle permet de faire gagner du temps et de finalement faire en sorte que l'acquéreur puisse identifier et poser les bonnes questions, donc faire gagner du temps à l'acquéreur, mais aussi à l'agent immobilier, lors de la visite.
Vous êtes un portail, vous l'avez dit, je l'ai évoqué dans votre présentation. Est-ce qu'il vaut mieux être sur un seul portail, sur plusieurs ? C'est quoi la bonne stratégie aussi dans ce domaine-là ?
Vous savez, si vous êtes propriétaire et que vous donnez un mandat exclusif, c'est-à-dire le mandat à une seule et même agence, et que ce bien-là est bien positionné en termes de prix, est au bon endroit, ça ne sert à rien de courir les portails. Le bien est exclusif, l'agent en a la possession, la recherche qui est faite par les acquéreurs se fait effectivement sur plusieurs portails. Quant à vous, ça ne sert à rien de courir les portails si vous avez le bon produit. Agent immobilier devrait se contenter sur un portail.
Merci David Benbassa et je rappelle que vous êtes le directeur général du site d'annonce Bien Ici.
Merci à vous.
Sud Radio Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant d'Osez Investir en logement. Alors Bernard, de quoi allez-vous nous parler ? De loyer capitalisé, c'est bien ça ? Et à Paris en plus ?
Oui, Thomas. Alors la première idée qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est qu'il faut d'abord percevoir une somme, quelle qu'elle soit, notamment des loyers par exemple, avant d'espérer les capitaliser. C'est comme ça que ça marche.
Ça n'a rien d'étonnant en soi.
Ben non, jusque-là tout va bien, c'est le principe d'ailleurs adopté par la mairie de Paris, mais voyons comment. Alors rappelons tout d'abord que la loi exige un pourcentage de logements sociaux par ville, 25%, chaque commune cherchant bien sûr à atteindre cet objectif ou à s'en approcher. Et la ville de Paris n'y échappe pas, et elle fait d'ailleurs de gros efforts en la matière. Mais elle adopte une démarche un peu particulière. Elle rachète des logements en utilisant son droit de préemption, c'est-à-dire qu'elle achète en priorité, bien évidemment, puis elle les convertit en logements sociaux et se tourne alors vers les bailleurs sociaux qui les exploiteront durant les 50 prochaines années.
Là toujours, rien de surprenant.
Non, mais là où c'est original, là, j'y viens, là, ça y est, c'est que le bailleur social doit verser en une seule fois l'intégralité des loyers des 50 années. Imaginez un bailleur privé qui demanderait à son locataire de lui verser d'un seul coup les 3 ans de loyer avant l'entrée dans les lieux. Je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais ça m'étonnerait. Alors vous avez compris, c'est tout sauf banal. Ça résulte d'ailleurs d'un accord dérogatoire qui avait été accordé à la ville de Paris en 2015. Et la Chambre régionale des comptes a d'ailleurs évoqué une manœuvre comptable.
Alors que faut-il en penser, Bernard ?
C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein.
Moi, je vous propose de prendre le verre plus petit. Non,
ça marche pas comme ça. Et puis moi, je le vois toujours à moitié plein le verre. C'est comme ça. Voilà, je fais comme ça. Ouais. Depuis 2016, ce système a certes permis d'acquérir et de transformer 20 000 logements et on peut s'en réjouir. Mais ces 20 000 logements qui vont manquer au marché de gré à gré renforcent la pénurie et contribuent ainsi à une forme de pression sur les prix de vente. Et puis enfin, les 1,2 milliard d'euros qui ont été avancés par les bailleurs sociaux, vous savez, les 50 ans de loyer, là, ils pèsent sur leur capacité d'investissement pour agrandir leur parc et loger plus de monde. Alors en conclusion, c'est un jeu à somme nulle ou c'est une bombe à retardement ? Eh bien, je vous les juge en ce dimanche matin.
On va apprécier votre remarque. Merci Bernard.
ImoStim, commercialisateur en immobilier neuf, présente
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Thomas, nous sommes en duplex avec Pierre Bonnet, président du groupe SLCI, promoteur en logement collectif, aménageur, constructeur de maisons individuelles et administrateur de biens dans la région Rhône-Alpes. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville de Villeurbanne.
Bonjour Pierre Bonnet. Comment se porte le marché du neuf sur Villeurbanne et quelle est sa tendance actuelle ?
Alors, le marché de Villeurbanne est très dynamique, comme toute l'agglomération lyonnaise. Par contre, il est caractérisé par une forte pénurie, puisque le nombre de ventes dépasse largement le réapprovisionnement de l'offre par les différents opérateurs sur l'agglomération. Plusieurs raisons à cela. la longueur d'obtention des permis de construire et puis la période 2020 avec les différentes confinements qui ont freiné l'obtention des permis de construire.
Pierre Bonnet, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement sur Villeurbanne, vers quel type de bien devrais-je m'orienter ?
Les investisseurs qui viennent nous voir se positionnent plutôt sur des 2 et 3 pièces qui se louent très bien puisque la population qui habite les villes est en général jeune et les foyers sont peu nombreux. Par contre, un investisseur qui dispose d'un budget un peu supérieur peut s'orienter vers des logements de 4 pièces puisque les locataires resteront plus longtemps.
Merci Pierre Bonnet.
Restez avec nous, on revient dans un instant avec le Club Osez Investir et Anne Mazoyer, fondatrice du cabinet Fair Value, pour nous éclairer sur la meilleure façon d'investir dans une entreprise.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens. Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore, présente.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous vous retrouvons avec Anne Mazoyer, fondatrice du cabinet Fair Value Corporate, spécialisée en communication globale. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu.
Oui, Philippe, comment recevoir Anne Mazoyer autrement que sur la musique d'un des films de Simone Signoret, votre actrice préférée, même si la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Cette dernière qui fut la première française à obtenir un Oscar a plus d'un point en commun avec vous. D'origine polonaise comme vous, casque d'or comme vous, passionnariat et intéressée par la chose publique comme vous. Mais vous, vous êtes plutôt une femme de l'ombre et pourtant tellement visible sans être prévisible. Votre métier est celui dont tout le monde parle mais que personne ne voit, femme d'influence. Mais quel plaisir de vous recevoir, Anne Mazoyer, vous qui êtes née un 17 juin. Quand on est la veille de l'appel du 18 juin, il n'est pas surprenant de faire de la communication de crise et du lobbying sa profession. Dans le calendrier républicain, ce 17 juin est considéré comme le jour de la pivoine. Alors, l'idée n'est pas de vous faire rougir, mais de vous faire sourire. Vous qui aimez citer Léonard de Vinci à l'envi, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Comme vous avez raison, car le malheur n'attend jamais. Vous décidez dans le présent pour mieux déterminer le futur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'influence que nous recevons, mais c'est bien la chef d'entreprise afin que vous nous disiez comment investir dans l'entrepreneuriat. Vous avez été une jeune dirigeante, car c'est à l'âge de 23 ans que vous reprenez l'entreprise familiale. Mais c'est en 1988 que vous déciderez de vous mettre à votre propre compte en devenant vous. En 2003, vous revendrez votre structure à Publicis, premier groupe publicitaire français, pour mieux repartir en 2005 dans un monde si incertain mais si enthousiasmant qu'est celui de la création d'entreprises. Vous avez été missionné tant par le président Mitterrand que Chirac sur des dossiers industriels, incarnant avant l'heure le « en même temps » si cher à Emmanuel Macron. Ce dernier qui dit qu'il n'est pas fait pour diriger par temps calme, mais qui est fait pour les tempêtes. Alors on peut dire que son vœu est exaucé. Mais êtes-vous si différente en définitive de lui ? Votre grand-père, votre mentor, qui vous disait de vous armer de courage, de vous battre jusqu'au bout comme une lionne, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même si vous avez en commun, d'ailleurs, d'être né le même jour que le réalisateur de ce film, Étienne Chatiliez. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de recevoir Anne Mazoyer en la faisant précéder par une autre Simone, Simone de Beauvoir, qui disait que la fatalité ne triomphe que si l'on croit en elle. Bonjour Anne Mazoyer.
Bonjour Thomas Binet. Mais dites-moi, quelle entrée en matière ?
Écoutez, on va continuer maintenant, vous êtes ici avec nous.
Ce n'est que le début.
Oui, parce que Anne Mazoyer, en préparant votre interview, j'ai été frappée en faisant mes recherches, en écoutant vos interventions, en lisant vos propos, du côté guerrier que vous avez la plupart du temps dans vos interventions. Alors, pour vous, le monde des affaires, c'est forcément un climat de violence ?
C'est devenu un climat de violence. Ce n'est pas forcément un climat de violence à l'origine, mais ça l'est devenu, et notamment depuis un an. C'est un climat de violence parce que ce sont souvent des combats, et des combats meurtriers, notamment parce qu'il y a des questions d'emploi à la clé, parce qu'il y a des questions de survie, et aussi parce que les rapports sont devenus complètement différents depuis une vingtaine d'années.
Alors, on est dans Osez Investir, ça ne vous a pas échappé. Est-ce qu'en France, on peut entreprendre facilement ? Est-ce que c'est un beau pays pour ça ?
Non.
Non ?
Non, non. C'est un pays complexe à cause, je dirais, du millefeuille administratif. Donc, c'est un parcours du combattant. Vous voyez, je reprends encore une fois des termes guerriers, mais c'est la réalité. il faut vraiment vouloir être entrepreneur en France, et je dis bien entrepreneur et chef d'entreprise, c'est-à-dire créer des emplois pour pouvoir y arriver. Mais une fois que vous avez une idée et que vous avez surmonté l'administration, si vous me permettez ce jeu de mots, c'est vrai que les choses peuvent se faire parce qu'on accueille les entrepreneurs en France. Il y en a du reste beaucoup. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très inventifs, très créatifs, et c'est un des pays les plus importants de ce point de vue-là.
Alors, quelles sont les recettes, si on peut considérer qu'il y a des recettes, pour réussir dans la création d'entreprises ?
Ah ben, il faut avoir le goût du risque. Parce qu'en principe, ce sont vos propres économies que vous risquez, c'est aussi votre nom, votre réputation. Il faut avoir aussi le goût des défis. Il faut probablement également avoir une vision, c'est-à-dire avoir quand même un sens stratégique. Et puis, j'allais rajouter quelque chose. Je crois que c'est très important, et surtout à l'heure actuelle, d'aimer les gens. Vous ne pouvez pas être chef d'entreprise si vous n'aimez pas les autres.
Alors, est-ce qu'il vaut mieux créer ou reprendre ? Parce que vous avez fait les deux.
Alors, moi, j'ai fait les deux, mais je dirais que moi, je suis un pur produit de la collection Harlequin. Parce que j'ai vraiment hérité de cette affaire.
Ça.
Oui, parce qu'en fait, c'était censé être un conte de fées qui n'a pas forcément tourné de la bonne manière. Parce que malheureusement, j'ai perdu mon fameux grand-père, qui était un grand industriel, très rapidement. J'étais extrêmement jeune. Mais j'ai fait face, et dans cette entreprise qu'il n'avait pas créée, puisque c'était son père qui l'avait créée, j'ai pu faire ma place, j'ai pu la reprendre, et puis un jour est venu où je me suis dit qu'il fallait que je me lance toute seule. Voilà.
Vous avez utilisé un mot fort, le verbe « aimer ». Mm-hmm. Est-ce qu'un bon manager, c'est pas celui qui est aimé par ses subalternes ?
Alors, d'abord, je n'aime pas le terme de subalterne.
Enfin, des personnes, de ses subordonnés.
Voilà. Alors, subordonné peut-être, collaborateur, c'est plus le mot approprié, c'est salarié, ça aussi. Parce que quand vous êtes chef d'entreprise, vous payez les gens avec lesquels vous collaborez. Non, je ne crois pas que ça soit fondamental qu'il soit aimé. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il soit respecté et qu'on adhère à sa vision. Qu'il soit aimé, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. Et quand ça arrive, c'est formidable. C'est formidable, mais ce n'est pas indispensable, je ne crois pas.
Alors, vous dites que l'entreprise n'est pas un lieu de villégiature. Vous partagez le point de vue donc, de Julia de Funès, j'imagine, philosophe, qui dit que le bonheur au travail est une hypocrisie.
Oui, elle a raison. Le bonheur, c'est quand même beaucoup plus complexe que les relations professionnelles ou que l'épanouissement que vous pouvez acquérir dans ou sur votre lieu de travail, c'est évident, c'est plus fort. En revanche, vous pouvez être très heureux dans votre travail, vous pouvez avoir des relations formidables qui contribuent à votre bonheur, parce que ça fait partie de votre identité, et c'est important, c'est même très important, parce que c'est une partie de notre vie, nous en tant que chef d'entreprise, qui est fondamentale, et oui, ça contribue à notre bonheur, mais ce n'est pas notre bonheur.
Alors, est-ce qu'on crée une entreprise pour gagner beaucoup d'argent ? Et est-ce qu'on en gagne aussi, accessoirement ?
Alors, je vais vous dire, ça dépend d'abord de chaque individu. Ouais. Ça dépend des secteurs que vous investissez, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Et puis, ça dépend de votre mode de fonctionnement. Ça dépend de votre style de vie. Moi, personnellement, ça n'a pas été le cas. Si ça avait été le cas, je serais restée chez Publicis, où on m'accueillait et où on m'a vraiment fait une proposition très intéressante. Et moi, j'ai préféré partir parce que je pensais, à ce moment-là, que j'avais une idée et que ça serait peut-être intéressant de la mettre à profit. Mais c'est l'idée de mettre à profit, pas moi.
C'est le prix de la liberté ?
Oui, une certaine forme de liberté. Ouais. Parce qu'il ne faut pas croire, quand vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes libre. Vous avez vraiment des obligations, vous avez des contraintes, mais vous les choisissez. C'est ça la différence. C'est comme la solitude, hein, finalement.
Être entrepreneur, c'est génétique ?
Dans mon cas, certainement. Dans mon cas, certainement. Mais je vais vous faire une confidence, cher Philippe. Mon grand-père était le deuxième mari de ma grand-mère, donc ce n'est pas mon grand-père génétique, mais c'est l'été de mon cœur, et réciproquement. Et il m'a tellement, comment vous dire, il m'a tellement donné son imprimatur qu'effectivement, il m'a transmis l'envie d'entreprendre.
Donc c'est génétique, mais pas tout à fait.
Pas tout à fait, pas complètement.
Anne Mazoyer, est-ce que c'est l'argent qui fait les idées ou le contraire, selon vous ?
Bonne question, surtout par les temps qui courent.
Oui.
Aujourd'hui, je vous dirais que les idées n'ont besoin que de financement. Vous voyez, c'est une façon différente de répondre à votre question. Je pense que si vous avez une idée et que vous souhaitez la mettre en œuvre, il viendra un moment où vous aurez besoin de financement. Du reste, c'est un des problèmes principaux que nous rencontrons dans ce pays. C'est le financement des TPE et des PME pour les aider à grandir et à devenir des ETI, etc. etc. C'est un vrai, vrai sujet. Mais les deux ne peuvent pas être liés, pardonnez-moi Thomas, ne peuvent pas être liés exactement de cette manière-là. Voilà. Ah.
Oui, parce qu'on a une tradition dans Oser Investir tous les dimanches matin avec Philippe. Nous proposons à nos invités de choisir une musique et vous avez fait un choix, Anne Mazoyer, ce matin.
Oui, il s'agit de la Polonaise héroïque de Frédéric Chopin.
Alors pourquoi ce choix musical ?
Je suis franco-polonaise, comme Frédéric Chopin. La comparaison, je vous rassure, s'arrête là. Même si j'ai une passion pour le piano, ma mère était pianiste et c'est vrai que... au-delà du génie de Frédéric Chopin, j'ai choisi cette polonaise. Parce que d'abord, il faut savoir que la polonaise, la tradition donc de ce morceau, pas celui-là en particulier, parce qu'il y a beaucoup de polonaises, c'est d'abord une musique de parade de procession et de patriotisme guerrier. Vous voyez, vous n'en sortirez pas.
On n'en sortira pas.
On n'en sortira pas. Pour en revenir à mon choix, ce n'est pas seulement sentimental, c'est parce que je pense que nous avons besoin actuellement d'avoir des perspectives qui soient héroïques dans le sens non pas d'un héros, mais qui soient héroïques dans le sens d'énergie pour pouvoir combattre, parce que le combat ne fait que commencer sur le plan économique.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin, Anne Mazoyer.
Guécouillet, Anne Mazoyer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Le 75e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr, dans l'ensemble de nos systèmes digitaux également, sur oserinvestir.fr et sur les applications que vous pouvez télécharger. Merci de votre fidélité.
Et à
dimanche prochain.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore. Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore, présente.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous vous retrouvons avec Anne Mazoyer, fondatrice du cabinet Fair Value Corporate, spécialisée en communication globale. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu.
Oui, Philippe, comment recevoir Anne Mazoyer autrement que sur la musique d'un des films de Simone Signoret, votre actrice préférée, même si la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Cette dernière qui fut la première française à obtenir un Oscar a plus d'un point en commun avec vous. D'origine polonaise comme vous, casque d'or comme vous, passionnariat et intéressée par la chose publique comme vous. Mais vous, vous êtes plutôt une femme de l'ombre et pourtant tellement visible sans être prévisible. Votre métier est celui dont tout le monde parle mais que personne ne voit, femme d'influence. Mais quel plaisir de vous recevoir, Anne Mazoyer, vous qui êtes née un 17 juin. Quand on est la veille de l'appel du 18 juin, il n'est pas surprenant de faire de la communication de crise et du lobbying sa profession. Dans le calendrier républicain, ce 17 juin est considéré comme le jour de la pivoine. Alors, l'idée n'est pas de vous faire rougir, mais de vous faire sourire. Vous qui aimez citer Léonard de Vinci à l'envi, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Comme vous avez raison, car le malheur n'attend jamais. Vous décidez dans le présent pour mieux déterminer le futur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'influence que nous recevons, mais c'est bien la chef d'entreprise afin que vous nous disiez comment investir dans l'entrepreneuriat. Vous avez été une jeune dirigeante car c'est à l'âge de 23 ans que vous reprenez l'entreprise familiale. Mais c'est en 1988 que vous déciderez de vous mettre à votre propre compte en devenant vous. En 2003, vous revendrez votre structure à Publicis, premier groupe publicitaire français, pour mieux repartir en 2005 dans un monde si incertain mais si enthousiasmant qu'est celui de la création d'entreprises. Vous avez été missionné tant par le président Mitterrand que Chirac sur des dossiers industriels, incarnant avant l'heure le « en même temps » si cher à Emmanuel Macron. Ce dernier qui dit qu'il n'est pas fait pour diriger par temps calme, mais qui est fait pour les tempêtes. Alors on peut dire que son vœu est exaucé. Mais êtes-vous si différente en définitive de lui? Votre grand-père, votre mentor, qui vous disait de vous armer de courage, de vous battre jusqu'au bout comme une lionne, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même si vous avez en commun d'ailleurs d'être né le même jour que le réalisateur de ce film, Étienne Chatiliez. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de recevoir Anne Mazoyer en la faisant précéder par une autre Simone, Simone de Beauvoir, qui disait que la fatalité ne triomphe que si l'on croit en elle. Bonjour Anne Mazoyer.
Bonjour Thomas Binet. Mais dites-moi, quelle entrée en matière.
Écoutez, on va continuer maintenant, vous êtes ici avec
nous. Ce n'est que le début.
Oui, parce que Anne Mazoyer, en préparant votre interview, j'ai été frappé en faisant mes recherches, en écoutant vos interventions, en lisant vos propos, du côté guerrier que vous avez la plupart du temps dans vos interventions. Alors, pour vous, le monde des affaires, c'est forcément un climat de violence?
C'est devenu un climat de violence. Ce n'est pas forcément un climat de violence à l'origine, mais ça l'est devenu, et notamment depuis un an. C'est un climat de violence parce que ce sont souvent des combats, et des combats meurtriers, notamment parce qu'il y a des questions d'emploi à la clé, parce qu'il y a des questions de survie, et aussi parce que les rapports sont devenus complètement différents depuis une vingtaine d'années.
Alors, on est dans Osez Investir, ça ne vous a pas échappé. Est-ce qu'en France, on peut entreprendre facilement? Est-ce que c'est un beau pays pour ça?
Non.
Non?
Non, non. C'est un pays complexe à cause, je dirais, du millefeuille administratif. Donc, c'est un parcours du combattant. Vous voyez, je reprends encore une fois des termes guerriers, mais c'est la réalité. Il faut vraiment vouloir être entrepreneur en France. Et je dis bien entrepreneur et chef d'entreprise, c'est-à-dire créer des emplois pour pouvoir y arriver. Mais une fois que vous avez une idée et que vous avez surmonté l'administration, si vous me permettez ce jeu de mots, c'est vrai que les choses peuvent se faire parce qu'on accueille les entrepreneurs en France. Il y en a du reste beaucoup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très inventifs, très créatif, et c'est un des pays les plus importants de ce point de vue-là.
Alors quelles sont les recettes, si on peut considérer qu'il y a des recettes, pour réussir dans la création d'entreprises?
Il faut avoir le goût du risque. Parce qu'en principe, ce sont vos propres économies que vous risquez, c'est aussi votre nom, votre réputation. Il faut avoir aussi le goût des défis. Il faut probablement également avoir une vision, c'est-à-dire avoir quand même un sens stratégique. Et puis, j'allais rajouter quelque chose. Je crois que c'est très important, et surtout à l'heure actuelle, d'aimer les gens. Vous ne pouvez pas être chef d'entreprise si vous n'aimez pas les autres.
Alors, est-ce qu'il vaut mieux créer ou reprendre? Parce que vous avez fait les deux.
Alors, moi, j'ai fait les deux, mais je dirais que moi, je suis un pur produit de la collection Harlequin. Parce que j'ai vraiment hérité de cette affaire.
Ça.
Oui, parce qu'en fait, c'était censé être un conte de fées qui n'a pas forcément tourné de la bonne manière. Parce que malheureusement, j'ai perdu mon fameux grand-père, qui était un grand industriel, très rapidement. J'étais extrêmement jeune. Mais j'ai fait face, et dans cette entreprise qu'il n'avait pas créée, puisque c'était son père qui l'avait créée, j'ai pu faire ma place, j'ai pu la reprendre, et puis un jour est venu où je me suis dit qu'il fallait que je me lance toute seule. Voilà.
Vous avez utilisé un mot fort, le verbe « aimer ». Mm-hmm. Est-ce qu'un bon manager, c'est pas celui qui est aimé par ses subalternes?
Alors, d'abord, je n'aime pas le terme de subalterne.
Enfin, des personnes, de ses subordonnés.
Voilà. Alors, subordonné peut-être, collaborateur, c'est plus le mot approprié, c'est salarié, ça aussi. Parce que quand vous êtes chef d'entreprise, vous payez les gens avec lesquels vous collaborez. Non, je ne crois pas que ça soit fondamental qu'il soit aimé. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il soit respecté et qu'on adhère à sa vision. Qu'il soit aimé, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. Et quand ça arrive, c'est formidable. C'est formidable, mais ce n'est pas indispensable, je ne crois pas.
Alors, vous dites que l'entreprise n'est pas un lieu de villégiature. Vous partagez le point de vue donc, de Julia de Funès, j'imagine, philosophe, qui dit que le bonheur au travail est une hypocrisie.
Oui, elle a raison. Le bonheur, c'est quand même beaucoup plus complexe que les relations professionnelles ou que l'épanouissement que vous pouvez acquérir dans ou sur votre lieu de travail, c'est évident, c'est plus fort. En revanche, vous pouvez être très heureux dans votre travail. Vous pouvez avoir des relations formidables qui contribuent à votre bonheur, parce que ça fait partie de votre identité. Et c'est important, c'est même très important, parce que c'est une partie de notre vie, nous, en tant que chef d'entreprise, qui est fondamentale. Et oui, ça contribue à notre bonheur, mais ce n'est pas notre bonheur.
Alors, est-ce qu'on crée une entreprise pour gagner beaucoup d'argent ? Ah. Et est-ce qu'on en gagne aussi, accessoirement ?
Alors, je vais vous dire, ça dépend d'abord de chaque individu. Ouais. Ça dépend des secteurs que vous investissez, c'est le cas de le dire. Ouais. Et puis, ça dépend de votre mode de fonctionnement. Ça dépend de votre style de vie. Moi, personnellement, ça n'a pas été le cas. Si ça avait été le cas, je serais restée chez Publicis, où on m'accueillait et où on m'a vraiment fait une proposition très intéressante. Et moi, j'ai préféré partir parce que je pensais à ce moment-là que j'avais une idée et que ça serait peut-être intéressant de la mettre à profit. Mais c'est l'idée de mettre à profit, pas moi.
C'est le prix de la liberté ?
Oui, une certaine forme de liberté. Ouais. Parce qu'il ne faut pas croire, quand vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes libre. Vous avez vraiment des obligations, vous avez des contraintes, mais vous les choisissez. C'est ça la différence. C'est comme la solitude, hein, finalement.
Être entrepreneur, c'est génétique ?
Dans mon cas, certainement. Dans mon cas, certainement. Mais je vais vous faire une confidence, cher Philippe. Mon grand-père était le deuxième mari de ma grand-mère, donc ce n'est pas mon grand-père génétique, mais c'est l'été de mon cœur, et réciproquement. Et il m'a tellement, comment vous dire, il m'a tellement donné son imprimatur qu'effectivement, il m'a transmis l'envie d'entreprendre.
Donc c'est génétique, mais pas tout à fait.
Pas tout à fait, pas complètement.
Anne Mazoyer, est-ce que c'est l'argent qui fait les idées ou le contraire, selon vous ?
Bonne question, surtout par les temps qui courent. Oui. Aujourd'hui, je vous dirais que les idées n'ont besoin que de financement. Vous voyez, c'est une façon différente de répondre à votre question. Je pense que si vous avez une idée et que vous souhaitez la mettre en œuvre, il viendra un moment où vous aurez besoin de financement. Du reste, c'est un des problèmes principaux que nous rencontrons dans ce pays, c'est le financement des TPE et des PME, pour les aider à grandir et à devenir des ETI, etc. etc. C'est un vrai, vrai sujet. Mais les deux ne peuvent pas être liés, pardonnez-moi Thomas, ne peuvent pas être liés exactement de cette manière-là. Voilà.
Ah. Oui, parce qu'on a une tradition dans Oser Investir tous les dimanches matins avec Philippe. Nous proposons à nos invités de choisir une musique et vous avez fait un choix, Anne Mazoyer, ce matin.
Oui, il s'agit de la Polonaise héroïque de Frédéric Chopin.
Alors pourquoi ce choix musical ?
Je suis franco-polonaise, comme Frédéric Chopin. La comparaison, je vous rassure, s'arrête là. Même si j'ai une passion pour le piano, ma mère était pianiste. Et c'est vrai que, au-delà du génie de Frédéric Chopin, j'ai choisi cette polonaise. Parce que d'abord, il faut savoir que la polonaise, la tradition donc de ce morceau, pas celui-là en particulier, parce qu'il y a beaucoup de polonaises, c'est d'abord une musique de parades de procession et de patriotisme guerrier. Vous voyez, vous n'en sortirez pas.
On n'en sortira pas.
On n'en sortira pas. Pour en revenir à mon choix, ce n'est pas seulement sentimental, c'est parce que je pense que nous avons besoin actuellement d'avoir des perspectives qui soient héroïques dans le sens non pas d'un héros, mais qui soient héroïques dans le sens d'énergie pour pouvoir combattre, parce que le combat ne fait que commencer sur le plan économique.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin, Anne Mazoyer.
Guécouillet, Anne Mazoyer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Le 75e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr, dans l'ensemble de nos systèmes digitaux également, sur oserinvestir.fr et sur les applications que vous pouvez télécharger. Merci de votre fidélité.
Et à
dimanche prochain.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore.